VOA Afrique, les infos. À Washington.
Eric Manirakiza, 9h à Washington, 13h temps universel. Bonjour. Au Burundi, depuis l'assassinat d'Adolphe Nshimirimana, ancien chef de service secret, dimanche à Bujumbura, suivi de l'attaque des défenseurs des droits de l'homme Pierre Claver en Bonima, président de la PRODH, toutes les nuits sont ponctuées par des tirs à l'arme automatique dans les différents quartiers de la capitale. Hier soir, un membre du parti présidentiel a été tué dans Bujumbura rural. Les témoignages de la population affirmaient que deux policiers ont aussi été tués dans le quartier de Chibitoke. Ces tueries à mobile politique deviennent monnaie courante. La communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis appellent au dialogue initié par le médiateur Yoweri Museveni. Précision à Bujumbura de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Des sources sécuritaires ont indiqué qu'après l'assassinat hier de Kom Harerimana, un membre du parti présidentiel dans la commune de Kanyoshe, dans Bujumbura rural, deux policiers auraient été tués ce mercredi matin dans le quartier de Chibitoke, une information qui n'a pas été confirmée par la police. Chibitoke est une circonscription qui a toujours manifesté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, jugé anticonstitutionnel par les opposants burundais. Des journalistes indépendants ont peur d'aller sur terrain, prendre des photos, craignant pour leur sécurité. Depuis que le correspondant de RFI et de l'agence France Presse, Esdras Ndikumana, a été tabassé par des agents des services de renseignement le jour où des gens armés ont tué à la roquette le numéro 2 du régime, Adolphe Nshimirimana. Les sources sécuritaires sont unanimes à affirmer qu'il y a eu une résurgence de l'insécurité, même si le président burundais avait appelé au calme dans un message à la nation. La mort de l'ancien chef des renseignements avait été suivie par une attaque 24 heures plus tard contre le défenseur des droits humains au Burundi, Pierre Claver Mbonimpa, dont l'état est actuellement stable selon sa famille. Mardi dans l'avant-midi, un responsable militaire d'une garnison à Kayanza, au nord du pays, avait été blessé tandis que son garde-camp avait été tué selon des sources militaires contactées. La communauté internationale, tout en condamnant ces assassinats, demande que les auteurs de ces meurtres soient traduits devant la justice. L'ONG International Crisis Group constate qu'il y a un changement qualitatif dans la violence et que l'on est entré désormais dans les prémices de la guerre. International Crisis Group appelle à une réaction de la communauté internationale urgente et à la hauteur du problème. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour la Voix de l'Amérique.
Le Cameroun affirme avoir arrêté des présumés combattants de Boko Haram déguisés en réfugiés pour attaquer un camp de réfugiés sur sa frontière nord avec le Nigeria. Ces arrestations ont eu lieu avant-hier. Ils seraient auteurs d'une attaque revendiquée par Boko Haram qui a visé deux villages camerounais. 9 personnes ont été tuées, des dizaines d'enfants enlevés et des maisons brûlées. Toujours au Cameroun, ce pays a fermé une partie de sa longue frontière fluviale avec le Nigeria pour stopper de possibles attaques des djihadistes et de Boko Haram dans le secteur. Plus de précisions avec Jacques Aristide.
La guerre contre Boko Haram ne cesse de s'intensifier dans le sud-ouest du Cameroun. Le gouverneur de la région affirme avoir pris des mesures pour sécuriser les voies d'accès maritime, pour empêcher le groupe nigérian d'utiliser la frontière fluviale longue de 300 km avec le Nigeria pour planifier des attaques. Bernard Okalia Bilai indique que ceux qui importent et exportent des marchandises opèrent pour la plupart dans des zones où les terroristes ont été très actifs. Des points de contrôle ont également été mis en place afin de passer à la loupe tous les passagers et les marchandises.
Jacques Aristide, au Congo-Brazzaville, un troisième opposant interdit de partir à l'étranger par les autorités. Après Pascal Tsati Mabiala, premier secrétaire de l'UPADS, et Rigobert Ngoualila, un autre membre de l'opposition, c'est maintenant René Blanchard-Oba, président du MDS, qui se voit confisquer son passeport et refuser le droit de quitter le pays. La réaction de son neveu du président Denis Sassou Nguesso au micro de notre correspondant à Brazza, Nguela Ngusu.
Le président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar, chef de la rébellion, ont gâché la bonne volonté de la communauté internationale à l'égard de la jeune nation sud-soudanaise, estime le président Obama. Le chef de l'exécutif américain avait pris part la semaine dernière au mini-sommet d'Addis Abeba sur la crise au Soudan du Sud, une rencontre qui avait pour but de déterminer les sanctions à prendre en cas de non-respect de l'ultimatum. S'il rate cet objectif, alors je pense qu'il nous faudra préparer un autre plan et reconnaître que ses dirigeants sont incapables de créer la paix qui est requise, a souligné Barack Obama.
Vous auriez entendu que le président américain Barack Obama a fait pression sur les leaders du Soudan du Sud pour qu'ils acceptent d'ici la date butoir de la mi-août les accords de paix visant à mettre fin à la guerre civile dans leur pays. Ce n'était pas donc l'interview de notre correspondant à Brazzaville. Retour justement sur cette information. Je vous le disais que dans le pays de Sassou Nguesso, un troisième opposant a été interdit de partir à l'étranger. Suivez la réaction de ce neveu du président Denis Sassou Nguesso au micro de notre correspondant à Brazza, Nguela Ngoussou.
Je suis en ce moment porteur d'un clou de 53 cm au fémur gauche. À cette date, je suis attendu en France par mon médecin pour un contrôle et suite à donner aux soins inhérents. Mon étonnement est donc grand de constater que je suis interdit de quitter le territoire national. Le lien pour moi est très évident. Il établit le rapport avec mes dernières prises de position sur la question du changement de la Constitution du 20 janvier 2002 en début de soirée lors des formalités de police. Par le protocole national et mon GDC, l'officier de service leur a signifié verbalement l'interdiction de quitter le territoire national, arguant que c'est sur instruction personnel du chef de l'État. Aussi, si le passeport diplomatique leur était présenté, mission leur a été donnée de le retirer afin de le remettre à monsieur le directeur général de la surveillance du territoire. Je n'ai tué personne. Je suis un citoyen congolais libre. J'ai le droit d'aller me soigner. J'ai le droit de dire non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002 sans que cela m'expose à des méthodes que même l'URSS, à son époque de gloire, avait abolies. Ces faits graves et arbitraires traduisent une traque et un harcèlement manifeste de certains acteurs politiques. D'où un sentiment de traitement à géométrie variable entre citoyens d'une même nation. Hier, ne l'oublions pas, ce sont ces sentiments d'injustice qui nous ont conduits au drame.
Serge Blanchard-Oba, président du MNDS d'opposition au Congo-Brazzaville. Et au Zimbabwe, un tribunal a décidé mercredi de reporter le début d'un procès contre un chasseur qui a facilité un Américain à tuer le lion Cécile le mois dernier, nous a confirmé Sébastien Mofou à Harare. En Côte d'Ivoire, début de l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale dans le cadre de la réconciliation. Le président Alassane Ouattara a personnellement donné le coup d'envoi de cette opération, Eddy Issangou.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au total, 4500 personnes doivent bénéficier de cette indemnisation. Mais selon le président du Programme national de cohésion sociale, Mariatou Koné, l'opération concernera dans un premier temps 3500 ayant droit des personnes décédées durant les violences qui ont suivi l'élection présidentielle ivoirienne de 2010. Un chèque de 1500 euros sera remis à chaque ayant droit à titre symbolique pour les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés, a précisé M. Koné. La commission à charge prévoit une deuxième phase après la réception de la liste consolidée.
Eddy Issangou, en Guinée, le gouvernement invoque le manque de préparation des forces de sécurité dans sa réponse au rapport de Human Rights Watch qui a accusé les autorités d'usage excessif de la force lors des récentes violences qui ont fait au moins 2 morts et 146 blessés à Conakry. L'interdiction des trophées de chasse à bord des avions de plusieurs compagnies aériennes nord-américaines, prise en rapport avec la mort du célèbre lion zimbabwéen Cécile, continue de susciter des réactions. Les experts en protection des animaux apprécient la mesure, mais ils estiment aussi qu'elle devrait se limiter aux espèces protégées. Et le président Barack Obama doit prononcer aujourd'hui un important discours qu'il exhortera le Congrès des États-Unis à approuver l'accord nucléaire international avec l'Iran. Législateurs américains voteront le mois prochain pour indiquer s'ils sont pour ou contre le document. Dans son discours prévu à l'université américaine à Washington, Barack Obama compte qualifier la décision du Congrès sur l'Iran de débat de politique étrangère le plus conséquent depuis la décision de l'intervention militaire américaine en Irak. Le chef de l'exécutif a déjà indiqué qu'il opposera son veto à tout vote négatif du Congrès à l'égard de l'accord de Vienne. C'est ici que prend fin ce journal. C'était Eric Manelakis à la présentation. Le prochain dans 55 minutes. Dans 50 minutes plus tôt, restez à l'écoute de VOA Afrique.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.